Bonjour, très chers auditeurs. Catherine, je suis ravie de vous retrouver pour notre émission mensuelle « À votre santé ». Au sommaire de notre émission aujourd'hui, nous recevons donc Gaëtan Wilfried qui va nous parler de la naturopathie. Puis nous retrouverons Margot pour les villes sans pub. Et Marine qui nous parlera de la méthode Ho'oponopono. Puis Alice qui va nous parler des minéraux. Et puis dans la rubrique trucs et astuces, c'est moi qui vous parlerai du bicarbonate de soude. Aujourd'hui, dans notre dossier, je reçois Gaëtan Wilfried pour nous présenter la naturopathie. Bonjour Gaëtan.
Bonjour Catherine, bonjour aux auditeurs.
Donc Gaëtan, si tu veux bien te présenter.
Oui, alors...
Qui es-tu?
Alors qui je suis, c'est une bonne question. Je suis... Alors je vais, pour me définir, je vais utiliser ce que je fais en tant que profession. Donc je suis praticien en santé naturelle. Alors ça doit pas beaucoup parler, je pense, aux auditeurs. Praticien en santé naturelle, c'est aujourd'hui pas très connu. Donc un praticien travaille essentiellement en médecine traditionnelle chinoise. Et associé à cette médecine traditionnelle chinoise, utilise également différentes thérapies complémentaires. Donc ça peut être par exemple l'aromathérapie, la réflexologie plantaire, qui elles sont plus connues. Donc ça, c'est la base finalement de ce que j'utilise dans ma profession. Et avec ça, j'utilise également le shiatsu myo-énergétique, qui également est peu connu.
Oui, je ne connais pas du tout.
Alors le shiatsu myo-énergétique, à la différence du shiatsu traditionnel, qui lui travaille en suivant les méridiens et suivant les théories de médecine chinoise, la myo-énergétique, myo signifie muscle, hein, énergétique pour énergétique, la myo-énergétique travaille sur l'équilibre postural, c'est-à-dire que mon formateur et puis aux origines finalement les Japonais qui sont à l'initiative de cette théorie ont remarqué que à chaque maladie, trouble ou douleur était associée à une déformation posturale. Et à partir de là, donc, ils ont élaboré une théorie qui travaille sur la déformation posturale afin de la rétablir. Donc ce travail s'effectue surtout sur des lignes tendinomusculaires, notamment au niveau du dos, et qui travaille à rééquilibrer le bassin.
D'accord.
Voilà. Et à partir de là, on peut soutenir, rétablir des maladies, des certaines douleurs.
Voilà, soutenir la santé, rétablir la santé en tout cas.
Exactement, exactement. Et donc ensuite... Donc, je vous ai parlé de praticien santé naturelle qui utilise la médecine chinoise, le shiatsu myo-énergétique, et je travaille aussi beaucoup également en hygiénisme et naturopathie.
Alors, il y a une petite différence entre les deux, hein, la naturopathie, l'hygiénisme, on peut confondre.
Alors les deux
ça
finalement.
Ça se ressemble quand même, hein, on est dans la même direction en tout cas.
Tout à fait. Les deux ont les mêmes fondamentaux, je veux dire. Par contre, dans la mise en pratique de ces fondamentaux, il existe quelques différences. Je m'explique. Les fondamentaux, ça va être, par exemple, ne pas nuire au corps.
Voilà.
Hein, qui est une théorie chère autant à la naturopathie qu'à l'hygiénisme. Par contre, ne pas nuire au corps, de quelle façon? Et donc c'est là que ça va différencier. L'hygiénisme, par exemple, travaille beaucoup au niveau alimentaire et part du principe que l'homme est un frugivore et donc se nourrit essentiellement de fruits, de légumes crus. La naturopathie part aussi sur ce principe-là, mais introduit des aliments un peu plus diversifiés dans le régime.
Oui.
Dans le régime, voilà. Et au niveau des méthodes de traitement, si je peux parler de traitement, l'hygiénisme donc va favoriser surtout une transformation du régime alimentaire et utiliser le jeûne à des fins thérapeutiques.
D'accord.
Voilà, l'hygiénisme pur et dur, si on peut dire, c'est pratiquement que ça. Après, il y a des nuances selon certains courants hygiénistes, mais le pur et dur, c'est ça.
Très
Ensuite,
bien.
En naturopathie, on va également travailler par le jeûne et l'alimentation, mais pas que. On va travailler également, par exemple, avec des médecines complémentaires. On travaille beaucoup en iridologie, par exemple, qui est l'étude de l'iris, afin d'étudier l'état nerveux des tissus et organes au niveau du corps. On travaille aussi avec des techniques de massage, de la réflexologie, enfin voilà. Beaucoup plus finalement de thérapies sont intégrées à la naturopathie qu'à l'hygiénisme. Après voilà, c'est toute une question de nuance hein, par rapport à ces deux courants. Donc les fondements finalement ils sont les mêmes, mais c'est comment on va mettre en pratique tout ça. C'est là que ça diffère finalement.
Donc là aujourd'hui tu vas nous parler davantage de la naturopathie.
Oui. Hein,
qu'est-ce que la naturopathie ? Pour quelqu'un qui n'y connaît rien du tout, ou comment tu peux définir la naturopathie ?
Comment on pourrait définir la naturopathie ? Mm-hmm. Avant tout comme une science finalement, hein.
Oui.
Une science qui va soutenir la santé, mais également une philosophie de vie, si on peut dire,
oui.
Dans le sens où la naturopathie va chercher finalement à être en harmonie le plus possible, autant sur les plans physiques que sur, et en tenant compte également de l'environnement qui est autour de nous, c'est-à-dire qu'on va soutenir le corps qui est individuel finalement, mais aussi l'environnement qui est nécessaire à l'équilibre du corps, hein. C'est-à-dire que si on ne tient pas compte de l'équilibre environnemental, de comment finalement sont les sols pour produire nos fruits et légumes par exemple, mm-hmm. qui eux ensuite nous nourrissent et contribuent à avoir un équilibre de santé au niveau du corps physique, on est dans quelque chose qui ne peut mener à une pleine santé.
Oui, ça manque de cohérence. Si...
Voilà, donc c'est, pour moi en tout cas, c'est voilà, la définition que j'en donne, c'est une science qui soutient la santé, tant physique, et qui tient compte aussi de l'environnement autour de soi. Alors, je vais approfondir maintenant avec les différentes techniques qui sont utilisées finalement en naturopathie pour soutenir le corps physique, enfin voilà, puis travailler aussi sur les plans émotionnels, entre autres. Donc, on utilise l'iridologie qui est l'analyse de l'iris, afin d'étudier l'état des tissus, l'état nerveux des tissus, glandes au niveau du corps, et donc ce qui peut donner une idée, par exemple s'ils sont en hyperactivité, pour la glande thyroïde par exemple, on peut arriver à voir si la glande thyroïde, l'état nerveux nous indique si la thyroïde peut être en hyperactivité ou au contraire en hypoactivité. Voilà. Et au niveau du corps, par exemple, au niveau des intestins aussi, on peut, par la présence d'acide sulfurique, au niveau donc qui dans l'œil se manifeste sous forme de taches orange ou jaune, hein, selon les individus, selon la couleur des yeux aussi, et selon l'état de candidose au niveau du corps, hein. Alors la candidose, c'est quoi ? La candidose, c'est un développement de champignons et de levures fongiques au niveau des intestins qui apparaissent suite à une acidose.
L'acidose, donc, c'est une grande acidité au niveau du corps.
Voilà, une grande acidité au niveau du corps. Et donc, ces champignons, ces levures se développent en réponse finalement à cette acidose pour traiter les déchets situés notamment au niveau des intestins. Et donc ça se manifeste sous forme, au niveau de l'œil, hein, finalement, sous la couleur orangée, qui connote la présence d'acide sulfurique au niveau voilà.
Et l'acidité, c'est quelque chose que la naturopathie va traiter en premier lieu.
Exactement. Hein? C'est quelque chose de très important pour travailler sur le terrain en naturopathie, ce qu'on appelle le terrain, c'est-à-dire le potentiel du corps finalement à répondre à une sollicitation et à pouvoir évacuer finalement de la toxicité et des déchets qui sont présents au niveau du corps. Le terrain, c'est ce potentiel-là finalement.
Hein. Oui, la naturopathie s'occupe avant tout du terrain. Hein, va aller à la source des problèmes en général. Hein, c'est bien ça.
Exactement. C'est-à-dire la problématique finalement la cause. Si on peut parler de cause, la naturopathie considère pas que la cause vient de l'extérieur, mais qu'elle vient de l'intérieur. Voilà. C'est-à-dire que l'état de dégradation du milieu intérieur conditionne l'apparition de maladies ou non.
Tout
c'est-à-dire
à fait,
que
oui.
admettons, je suis dans un hôpital où il y a des bactéries, des virus qui circulent dans l'air. Si oui. mon terrain est suffisamment fort, je oui. vais pouvoir finalement exercer dans ce milieu sans être atteint finalement par ces virus ou ces bactéries qui sont présents dans l'air. Pourquoi ? Parce que mon terrain est suffisamment fort et les virus n'ont pas besoin de nettoyer finalement l'état de toxicité au niveau de mon corps.
Voilà, tout à fait. Alors, Gaëtan, merci. On va faire une première pause. On se retrouve oui. juste après ce morceau de musique. À tout de suite.
À tout de suite.
Aujourd'hui, Gaëtan Wilfried, praticien en santé naturelle et Gaëtan, donc tu nous parles de la naturopathie aujourd'hui. Donc la naturopathie, évidemment, elle va soulager les symptômes lors d'une maladie. Hein, elle traite de la maladie par des moyens naturels. Mmh. Elle va donc soulager les symptômes, mais surtout, hein, on en parlait avant la pause, surtout aller à l'origine de la maladie, des problèmes. Hein, et l'origine, c'est le terrain.
Voilà, c'est l'altération du terrain qui représente la cause finalement d'apparition des symptômes. Donc, c'est-à-dire que le traitement du symptôme seul ne peut suffire pour retrouver une pleine santé.
Tout à fait. Si le terrain est sale, entre guillemets, hein, pour résumer, la maladie va continuer à se développer.
Exactement. Alors, elle pourra se manifester. Pour donner un exemple concret. Par exemple, quand les enfants sont petits, on remarque souvent qu'ils ont des symptômes de type ce qu'on appelait auparavant les catarrhes, c'est-à-dire des sorties de matière, le nez qui coule,
il mouche, il crache, il tousse, beaucoup
de toux, etc. Mm-hmm. Et lorsque finalement on réprime ces symptômes-là par des médications qui vont arrêter les sorties de matière. On ne fait que refouler finalement les éléments toxiques qui voulaient sortir dans le milieu intérieur. Et ça participe à altérer de plus en plus le terrain.
Oui.
Donc après des années finalement de répression des symptômes de cette manière-là, on va en arriver selon les individus, hein, il n'y a pas de généralité qui soit possible là, mais selon les individus, après des années de chronicité comme ça, à réprimer les symptômes, à manifester des symptômes de plus en plus important finalement.
Eh oui.
Et c'est là qu'on va arriver à des maladies dites chroniques qui durent plus longtemps parce que nous avons de plus en plus de déchets toxiques à l'intérieur de nous qui modifient le terrain et qui amènent à des maladies de plus en plus importantes et de plus graves.
Ah, donc le plus gros travail en naturopathie, c'est de nettoyer.
De nettoyer ce terrain,
de détoxiner, hein, ou de détoxiquer. Mais aussi de revitaliser. Hein, donc pour ça, il y a différents moyens.
Il y a différents moyens. Alors tout au début, je parlais de l'alimentation.
Alors nous parler peut-être encore quelques instants de nettoyage, de détoxination. Comment ça se passe?
Oui. Alors pour nettoyer le corps finalement et pour le détoxifier, pour éliminer les déchets qui sont à l'intérieur, on va avoir plusieurs moyens, plusieurs méthodes. Sur le plan de l'alimentation, rapidement, il y a les fruits, notamment, qui consommés crus, vont participer à détoxifier. Par opposition aux légumes qui, eux, ne vont pas détoxifier, mais plutôt revitaliser, comme tu le mentionnais.
Voilà.
C'est-à-dire participer à restructurer les tissus lorsqu'ils ont été abîmés ou lésés, apporter des minéraux. Et les fruits, eux, vont plutôt jouer un rôle de nettoyage, c'est-à-dire d'élimination des déchets qui sont en stagnation dans le corps.
D'accord.
Voilà, donc ça, c'est une première méthode. Ensuite, on va avoir, par exemple, qui peut être utilisé en naturopathie, les lavements. Lavements coloniques ou l'hydrothérapie du côlon, qui consiste à insérer un volume d'eau au niveau donc de l'anus, dans le côlon, dans le gros intestin, dans le côlon.
Oui.
Hein, donc côlon descendant, transverse, puis ascendant. Sachant que, petite précision par rapport au lavement, on ne peut pas atteindre l'intestin grêle.
Oui. Hein,
par un lavement, c'est important à préciser. Et donc ces lavements vont permettre de sortir des matières, des dépôts de matières qui se sont accumulés sur les parois et qui participent à l'intoxication au niveau du corps. Donc ça, c'est une première méthode aussi, une autre méthode pardon, pour évacuer les déchets qui eux sont situés au niveau du gros côlon, du gros intestin pardon. Voilà, ça, c'en est une autre. Ensuite, il va y avoir les techniques manuelles. Donc là, on va pouvoir citer le massage, qui remet en circulation la lymphe, le sang. La lymphe étant au niveau du corps, hein, par opposition au circuit sanguin, le circuit qui stocke tout ce qui est déchets.
Hein. Oui.
Le sang, c'est tout ce qui apporte les nutriments, les choses dont la cellule se nourrit. Et la lymphe, c'est tout ce qui va stocker tout ce que les cellules rejettent, qui va les stocker, puis ensuite les diriger vers les voies de sortie, que sont les reins, les intestins, la peau, les poumons.
Tout à fait, voilà. Oui.
Donc les massages vont participer à ça aussi.
Voilà, donc les massages, ils vont non seulement détoxiner, hein, ils vont nettoyer le corps, mais aussi ils vont apporter du bien-être. Hein. Donc il n'y a pas seulement le physique, mais il y a aussi tout un apport au niveau de l'émotionnel.
De l'émotionnel, hein, tout à fait.
Aller apaiser les tensions au niveau de l'esprit, aller soulager les tensions au niveau du corps, c'est complet. Hein, le massage. Donc, on en parlera peut-être lors d'une prochaine émission parce que là, c'est on va assez vite quand même. Hein.
Oui.
Mais voilà, il y a toujours plusieurs dimensions qui sont appréhendées, hein, dans chaque technique utilisée en naturopathie.
Oui, alors la dimension que tu as mentionnée qui est importante, c'est celle de l'émotionnel finalement. Donc en naturopathie, il est important d'agir aussi sur le stress. Donc pour ça, on va avoir les massages qui vont calmer le système nerveux d'une part, et donc le corps étant relié aussi à l'esprit, on participe à calmer les états émotionnels par ce biais-là, et notamment par le biais du système nerveux. Ensuite, on s'intéresse aussi beaucoup... Donc pour le stress, hein, au plan psychologique, émotionnel, et pour ça on va pouvoir jouer avec l'aromathérapie.
Tout à fait, bien sûr.
Qui
oui.
avec donc les huiles essentielles participent à stabiliser des états émotionnels qui parfois pourraient être incontrôlés ou moins stables. Donc l'aromathérapie qui peut être utilisée donc en diffusion ou même aussi dans les massages, hein, en dilution
sûr,
avec
oui.
des huiles végétales. Qui peut être aussi utilisé par voie interne, mais là qui demande beaucoup plus de pratique et de formation. Moi, je suis pas suffisamment qualifié pour en parler de prise en voie interne.
Mm-hmm. Voilà. Donc en tout cas, les huiles essentielles, on les utilisera pour le plan émotionnel, mais aussi pour le plan physique.
Oui.
Hein, en cas de problème de digestion, on va pouvoir utiliser. De l'estragon ou du basilic ou des choses comme ça.
Ouais,
hein, c'est voilà encore c'est... une fois cette ce moyen là convient pour l'ensemble, hein, de pour toutes les dimensions de l'être humain.
De l'être humain, ouais, tout à fait.
Voilà, donc il y a d'autres techniques aussi, d'autres moyens utilisés en naturopathie.
Oui, tout à fait. Alors on peut citer aussi la chromathérapie. Alors je sais pas si c'est bien le bon terme, mais donc c'est qu'on utilise les couleurs, alors
toutes les techniques qui sont vibratoires, qui sont énergétiques.
Voilà. Hein,
donc la chromathérapie en fait partie, effectivement.
Voilà, donc là on utilise les couleurs à des fins thérapeutiques aussi. Pour ce qui est des vibrations, on parle aussi de musicothérapie, donc
oui.
C'est qu'on peut travailler avec des instruments. Ce sont des choses notamment qui se développent beaucoup dans les milieux hospitaliers. On voit apparaître de plus en plus des musicothérapeutes et également
oui.
en maisons de retraite. Ils travaillent aussi beaucoup en structure médicale pour les handicapés. Musicothérapie et sophrologie aussi sont des choses qui des méthodes qui interviennent dans ces milieux-là et qui peuvent entrer dans le cadre d'une prise en charge naturopathique.
Tout à fait, hein, et ça je vous en parlerai aussi, je vous en ai déjà parlé. Hein, la sophrologie fait partie intégrante des soins que l'on peut apporter dans le cadre d'une cure naturopathique. Tu n'as pas parlé de la phytothérapie aussi, hein.
Alors,
ça
oui.
c'est quelque chose de
très important.
De très important naturopathie, plantes.
Les plantes, en effet, de très important. Alors, les plantes qui peuvent se prendre de différentes façons. Hein, le plus courant, donc, c'est en décoction, infusion. Il y a aussi les hydrolats. Alors, les hydrolats qui sont les résidus, finalement, qui restent après l'extraction lors des plantes, des huiles essentielles, pardon. L'hydrolat, c'est c'est ce qui reste au niveau de l'eau, finalement, lorsqu'on a extrait les huiles essentielles. Et qui peuvent être utilisées, donc, aussi à des fins de soutien. Et donc, selon les plantes, alors en naturopathie, les plantes, elles vont agir là encore une fois, hein, autant pour le symptomatique que pour le terrain, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux plantes autant pour soulager un symptôme ou traiter un symptôme que pour soutenir le terrain. Mm-hmm. Un exemple concret, on peut prendre des plantes pour soutenir certaines glandes au niveau du corps qui seraient épuisées, auquel mm-hmm. cas là on agit directement sur le terrain, c'est-à-dire le potentiel du corps à gérer finalement un trouble ou une maladie, ou alors on va pouvoir prendre une plante pour, par exemple, faire circuler au niveau du corps de manière plus adéquate, par exemple, si nous avons de la constipation, prendre une plante en particulier pour faire circuler au niveau du corps. Voilà.
Voilà. Eh bien, malheureusement, on arrive à la fin de ce dossier. Encore merci Gaëtan. Je pense qu'on se retrouvera une autre fois parce qu'il y a tellement de choses à dire et on a oublié plein de choses certainement encore.
En effet. Ouais.
Voilà. En tout cas, merci pour aujourd'hui. À très bientôt, Gaëtan.
C'est avec plaisir. À bientôt.
By the meeting of the roads, I just fell to my knees when I knew I had to make a choice. It's a shame, you said, that I may never know how far I can sometimes go. How far I can sometimes go. And while my boat is dreaming away by the shore of Miami Bay, I'm still trying to figure out the end of what I was starting to say. And you found all the footprints that I left in the loam when I spied on you every night. There was a secret that you said in your sleep, just a word that I could keep, or just a word that I could keep. And while my boat is drifting away by the shore of Miami Bay, I'm still trying to figure out end of what I was starting to say. And I wish I was a comet to crash on your field, just to be remembered. And I wish I was a comet to crash at your feet, or just to be remembered. Shore of Miami Bay, I'm still trying to figure out the end of what I was starting to say.
Voilà, donc nous retrouvons Margot pour sa chronique Carte Blanche. Aujourd'hui, Margot va nous parler, je crois, des villes sans pub. Bonjour Margot.
Bonjour Catherine.
Alors, des villes sans pub, ça existe ça?
Alors oui, je vais commencer par une petite constatation. Trop de pub tue la pub, comme on dit. Et je pense que vous voyez de quoi je veux parler. La publicité a envahi notre quotidien, si bien que de nombreuses études prouvent que nous sommes exposés à environ 1500 à 3000 messages publicitaires par jour. Les publicités sont aujourd'hui tellement présentes dans nos vies qu'elles sont devenues énergivores et intempestives. On n'a même plus envie de les regarder maintenant. Cette pollution visuelle a transformé aussi l'architecture de nos villes et communes, et c'est bien dommage. C'est pourquoi Sao Paulo, en octobre 2006, a été la première ville à s'extraire de ce système en bannissant la publicité de tout espace public grâce à la loi Ville Propre. Donc 5 millions d'affiches pour 20 millions d'habitants ont alors été enlevées. Les quelques pubs encore autorisées devaient se plier à des réglementations sur la taille, la hauteur et l'espacement. Et pour habiller les façades dénudées, la municipalité de Sao Paulo a eu la bonne idée de recouvrir les murs de graffitis, de sculptures ou encore photographies. Donc Sao Paulo est devenue la ville exemplaire en matière de réglementation de la publicité. Et 4 ans après l'adoption de la loi Ville Propre, près d'une cinquantaine de métropoles ont adopté des législations similaires. Alors en France, la commune Fort-Calquier, dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a été le premier exemple de ville sans pub. En effet, en 2009, tous les panneaux publicitaires ont été démontés suite à la décision du maire de cette commune, Christophe Castanet, qui a été influencé en fait par des actions anti-pub que de nombreux habitants ont beaucoup appréciées. Les habitants ont pu retrouver tout le charme et la beauté de l'architecture de leur commune grâce à cette décision. Et donc, il faut savoir aussi que la pub est très néfaste pour l'environnement. Les nouveaux panneaux lumineux et interactifs que l'on retrouve par exemple dans le métro consomment autant qu'un couple avec enfant en un an en termes d'énergie.
Waouh !
C'est énorme. Oui. Alors imaginez avec tous les panneaux lumineux qui existent, c'est quand même extrêmement une source d'énergie extrêmement importante. Et donc enfin, c'est Grenoble qui suit le mouvement et qui deviendra bientôt la première grande ville d'Europe sans publicité grâce à la décision du maire écologiste Éric Piolle, qui a décidé de ne pas renouveler son contrat avec la société JC Déco au 31 décembre 2014 dernier. Ce sont donc 2051 mètres carrés de pubs qui vont disparaître de l'espace public grenoblois d'ici fin 2015. Et à la place, la municipalité souhaite développer un affichage libre de petit format, non commercial, réservé aux associations, aux mouvements politiques et culturels, mais aussi aux citoyens. Et donc pour combler une perte de recettes due à cette décision de l'ordre de 150 000 euros, c'est la municipalité qui se sacrifie et la rémunération des élus et les frais de protocole seront fortement réduits. Alors oui, les entreprises vont devoir faire des efforts de créativité pour trouver d'autres moyens de faire parler d'elles,
et oui,
des mesures moins agressives qui ne pourront que valoriser leur image, je pense.
Très bien, bien de belles initiatives en perspective. Merci Margot, au revoir.
Merci, au revoir.
All I can ever be to you is a darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again. I should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. I wish I could say no regrets and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the blaze. Lonely lovers see. He walks away. The sun goes down.
Un moment d'information, de bonne humeur, de légèreté pour parler de notre santé et de notre bien-être au naturel. Et nous recevons aujourd'hui Marine pour sa chronique à propos de la méthode Ho'oponopono. Bonjour Marine.
Bonjour Catherine.
Alors, je t'écoute. Tu nous parles aujourd'hui de cette fameuse méthode.
Oui, c'est ça. Donc Ho'oponopono qui nous vient de Polynésie, hein, des îles Hawaï. Qui littéralement veut dire remettre en ordre, rétablir un équilibre. Le but de la méthode Ho'oponopono, c'est donc d'améliorer son quotidien en nettoyant son esprit de tous les parasites inconscients qui le gênent. Donc ces parasites inconscients, on va appeler ça des mémoires inconscientes. Le principe de la méthode, c'est de répéter une sorte de mantra dans le but donc de les nettoyer, tous ces blocages, toutes ces mémoires au niveau des énergies subtiles. 4 phrases à répéter, donc c'est « désolé »,« pardon », merci, je t'aime. À répéter comme un mantra, c'est-à-dire en continu. Hein, désolé, pardon, merci, je t'aime, en continu. À voix haute ou intérieurement, ça n'a pas d'importance. La seule chose importante, c'est de comprendre qu'il ne s'agit pas de répéter ces 4 phrases comme on répéterait une table de multiplication ou une comptine. Il faut prononcer ces mots avec la conscience du poids qu'ils portent. C'est-à-dire que nous allons considérer avec cette méthode que nous avons tous une responsabilité dans toutes les situations qui se présentent. Nous sommes tous des co-créateurs du monde dans lequel nous vivons. Hein, c'est ça la philosophie Ho'oponopono, on se base là-dessus. Toutes les manifestations extérieures sont le reflet de ce qui se joue à l'intérieur de moi. Hein, c'est ça les mémoires. Nous avons des mémoires à l'intérieur qui vont se traduire par des événements extérieurs. Donc, en ayant conscience de ça, nous allons comprendre que, désolé, pardon, nous allons dire pardon, donc d'avoir contribué à créer cette réalité. Sans culpabilité, hein, on n'est pas du tout dans la culpabilité, on fait bien la différence entre responsabilité et culpabilité. Donc pardon à moi-même, pardon à l'autre. On va également ensuite remercier, hein, remercier pour cette prise de conscience, remercier également pour l'occasion qui m'est donnée d'agir pour évoluer. Hein, parce que sans ce blocage qui serait remonté, ce stress qu'on aurait ressenti, on n'aurait pas eu l'occasion d'agir pour pouvoir nettoyer hein, cette mémoire qui remonte. Et enfin, je t'aime qui va renforcer l'amour, l'amour de soi, l'amour pour l'autre, la bienveillance et la connexion à l'amour universel. Voilà, donc Ho'oponopono qui peut devenir un réflexe à chaque instant de la vie pour que chacun puisse se mettre dans un état d'accueil, accueil des choses, accueil de toutes choses, même insignifiantes, avec un sentiment de gratitude, de pardon, d'humilité et d'amour.
Oui, c'est une méthode qui nous permet de nous élever à un niveau vibratoire qui permet d'attirer que des bonnes choses. Hein,
c'est ça. C'est la co-création. On parle aussi, si certains sont familiarisés, à la loi de l'attraction. On va attirer à soi ce pourquoi nous vibrons. Donc les mots ont un pouvoir, ont une certaine vibration, et le fait de les prononcer, on va attirer cette vibration-là. Mais c'est surtout aussi pour nettoyer. Hein. C'est vraiment du nettoyage qu'on fait avec Ho'oponopono. Nettoyer comme une évacuation du stress. Hein. Le stress, c'est quand on ressent un stress, c'est que quelque part il y a un blocage qui cherche à être évacué, à être guéri. Hein. Et donc ces quatre phrases, ces quatre mots vont aider justement dans cette guérison.
N'hésitez pas à retourner dans de précédentes émissions. J'ai fait tout un dossier par rapport à la loi de l'attraction. Donc on peut retrouver ça. Eh bien, écoute, Marine, merci beaucoup pour ces informations. Eh bien, à très bientôt. Au revoir.
À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.
À votre santé, notre rendez-vous mensuel de la bonne humeur, de la légèreté autour de la santé, du bien-être au naturel avec Alice, aujourd'hui notre diététicienne et conseillère en alimentation santé. Bonjour Alice.
Bonjour Catherine, bonjour à vous.
Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on va entamer une série de chroniques sur les minéraux et les vitamines. Donc aujourd'hui, on va parler des minéraux notamment, et je vais vous en présenter quelques-uns. Donc en fait, les minéraux, on parle des minéraux et également on entend le mot oligo-éléments souvent. Alors ce sont des atomes en fait, qui sont présents dans le corps sous la forme d'ions, c'est-à-dire qu'ils ont une charge électrique positive ou négative. Alors on va s'attarder plus longuement sur les minéraux. En fait, la différence entre un minéral et un oligo-élément, c'est que les oligo-éléments sont présents en très petite quantité dans le corps. On en a besoin du coup, on a besoin d'en apporter dans l'alimentation, mais de façon très insoumise. Et c'est aussi une différence au niveau de leur rôle. Donc en fait, les minéraux, ils ont deux rôles fondamentaux. Le premier, c'est qu'ils entrent dans la composition de nombreux tissus, comme les os, le sang, la peau, les cheveux. Et ils ont également un rôle fonctionnel, c'est-à-dire qu'ils ont des rôles dans les réactions chimiques qui ont lieu dans le corps. On parle d'un rôle de catalyseur des réactions chimiques du corps. Tandis que les oligo-éléments, eux, ils ont uniquement un rôle catalytique.
D'accord.
Donc, on va faire la différence entre les minéraux et les oligo-éléments. Donc, les minéraux, on a le calcium, le fer, le phosphore, le sodium, le chlore, le potassium, le magnésium et le zinc. Ça, ce sont les minéraux. Et pour vous donner une idée, les oligo-éléments, je ne vais pas tous les citer, mais par exemple, c'est le soufre et le sélénium. Donc voilà, on va parler un peu plus maintenant des minéraux. Donc en fait, les minéraux, on en a dans le corps, donc, et on a aussi des minéraux qui partent de notre corps, qui sont par exemple les minéraux dans les urines, donc il faut en apporter dans l'alimentation tous les jours. On a souvent la croyance que l'absorption des minéraux était meilleure dans les produits animaux, parce que dans les produits d'origine végétale, il y a des fibres qui piègent les minéraux. Et il y a également des produits comme l'acide oxalique ou l'acide phytique qui piègent des minéraux et qui empêchent leur absorption au niveau de l'intestin. Mais on a découvert il y a peu de temps que si on a une bonne flore intestinale, c'est-à-dire toutes les bactéries et les levures qui sont dans nos intestins, si on a une bonne flore intestinale, les éléments minéraux qui se retrouvent piégés dans les fibres et par les acides, donc phytiques et oxaliques, ils sont libérés au niveau du côlon et ils sont réabsorbés. Donc voilà, on a toute cette croyance-là qui est en train de partir. Et du coup, on ne néglige plus les apports végétaux par rapport aux apports animaux. Donc on va entrer un peu plus dans le détail quand on passera en revue les différents minéraux. Donc il faut savoir que les minéraux et oligo-éléments sont indispensables à la vie et en synergie en fait. Ils agissent en synergie les uns avec les autres. D'où l'intérêt de consommer des aliments entiers et non pas de se supplémenter en tel ou tel minéraux. Bien sûr, ça peut être intéressant si à un moment donné on a vraiment une carence très importante, mais il faut savoir que quand un aliment est entier, il y a une synergie de vie en fait à l'intérieur de minéraux et puis de vitamines et d'autres apports aussi. Donc voilà, c'est intéressant. Et c'est aussi tout l'intérêt de l'agriculture biologique pour le coup, parce que quand on a une agriculture intensive, on appauvrit les sols en fait. On va tirer au maximum de parties de ce sol. Généralement, il n'y a pas les temps de jachère qui permettent au sol de se reconstituer. Donc, on va mettre beaucoup d'herbicides, de fongicides et puis d'insecticides. Et on va en fait exploiter au maximum la terre. Ce qui fait que les végétaux qui poussent dessus ne sont pas aussi riches qu'ils devraient l'être en minéraux et vitamines et en autres apports également. Dans l'alimentation moderne, on a tendance à raffiner énormément les aliments. Donc on se retrouve avec des aliments industriels qui sont sans vie et sans minéraux. Alors que dans l'agriculture biologique, la vie du sol est très importante et prise en compte. On apporte des minéraux et des matières organiques naturelles dans le sol, ce qui fait que le sol est riche et les végétaux vont pouvoir s'en nourrir. Et ainsi, en agriculture biologique, quelque chose qui est beaucoup plus suivi qu'en conventionnel, c'est la saisonnalité. C'est-à-dire qu'une courgette qu'on aura fait pousser, par exemple, à la bonne saison, c'est-à-dire en été, dans un sol riche, elle sera donc forcément riche en minéraux. Par contre, une courgette qu'on a fait pousser sous serre en hiver, dans un sol pauvre, il y a forcément des différences. Voilà.
Eh bien, écoute, merci beaucoup, Alice, pour cet éclairage. C'était très, très intéressant. C'est vrai qu'on a souvent tendance à mélanger un petit peu un minéraux oligo. Eh bien, c'est beaucoup plus clair. Merci beaucoup, Alice. Oui. Au revoir.
Au revoir.
It's your name. Wonderful is what you are to me. It's you I see in my dreams every day, and I pray for you, queen of my life. You are so beautiful, Mama, you're beautiful. Emi wa mama kan. Talori ye ye ye. Mama mi o rojuri. That is why I'm loving you. Nitori ama o o ti a ile oko. Mama mi o rojuri. That is why I'm loving you. La 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 la. Oh, you're beautiful. Oh, you're beautiful. Oh yeah, la 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 la. Oh, you're beautiful. Oh, you're beautiful. Eba mi kira fu mama mi. Shabika o kosila e eba mi kira fu mama mi.
Aujourd'hui, dans notre rubrique Trucs et astuces, un produit naturel, écologique et bon marché. Oui, c'est le bicarbonate de soude ou de sodium. C'est un produit indispensable dans la cuisine, mais aussi dans la salle de bain, dans le garage. Le bicarbonate de soude blanchit, désodorise, assainit. C'est un produit vraiment facile à utiliser, un produit à avoir dans son placard chez soi tout le temps. Hein, préférez le bicarbonate de soude alimentaire, on peut le trouver partout hein, pour quelques euros seulement. En plus d'absorber les odeurs, le bicarbonate de soude avec un peu d'eau fait disparaître les traces de nourriture, de graisse incrustée partout dans la cuisine. C'est une véritable crème à récurer. De plus, c'est un puissant anticalcaire. On peut le mettre dans la machine à laver ou la vaisselle. Il nettoie aussi les parois du réfrigérateur ou du congélateur avec, par exemple, un litre d'eau mélangé à 2 cuillères à soupe de bicarbonate. On peut faire disparaître les taches ou les traces de moisissure hein, en utilisant une pâte faite avec par exemple 3 mesures hein, de bicarbonate pour une mesure d'eau et on applique cette pâte sur une éponge, ça va faire disparaître donc les moisissures. On peut également l'utiliser en bain de bouche contre les aphtes, l'utiliser comme dentifrice, déodorant. Si on met par exemple un verre de bicarbonate dans le bain, eh bien on va avoir tout le corps très doux, les pieds, les mains. Ça va tonifier tout notre corps, éliminer les courbatures, chasser la fatigue. Et en plus, ça nettoie la baignoire. Donc c'est formidable. On peut l'utiliser en pâte contre les mycoses, en shampoing sec, en masque astringent ou comme gommage pour le visage, contre les irritations de la peau, contre des démangeaisons aussi. Mais en voie interne, on peut utiliser le bicarbonate de soude en cas de problème digestif. Par exemple, 2 cuillères à soupe dans 1 litre d'eau. On va le boire tout au long de la journée. Hein, on peut aussi, pour remplacer la poudre à lever, utiliser 1 cuillère à café pour un gâteau. On peut l'utiliser pour laver les légumes, pour désodoriser, éliminer aussi les acariens sur les tapis, sur les rideaux. Désinfecter les canapés, donc les tapis, les moquettes, les matelas, les chaussures, le paillasson. Hein, c'est une manière facile de nettoyer les matelas, les paillassons et de raviver les couleurs aussi. On saupoudre de bicarbonate et on laisse agir 12 heures, un petit peu plus en cas d'odeur par exemple qui persiste. Et puis ensuite on passe l'aspirateur. Voilà. Mais il y a plein de d'autres indications à la liste. Elle ne s'arrête pas là. On peut aussi utiliser le bicarbonate pour repousser les parasites et protéger les plantes contre le mildiou, par exemple. Hein, 1 cuillère à café de bicarbonate de soude, 1 cuillère à café de savon de Marseille liquide dans 1 litre d'eau et on vaporise ce mélange sur les feuilles. Donc le bicarbonate a la particularité d'alcaliniser hein, le terrain et de limiter ainsi la capacité des spores de champignons à se développer. Voilà, donc retrouver toutes les vertus du bicarbonate dans des petits guides. On peut vraiment l'utiliser pour plein de choses. Voilà, c'est maintenant l'heure de nous quitter. On arrive au terme de l'émission. Ça y est, c'est la fin. On se retrouve très bientôt. Je vous souhaite plein de bonnes choses, des journées lumineuses et restez à l'écoute de CFM et surtout restez à l'écoute de vous-même. Je vous dis au revoir, à très bientôt.
Thank you.